Résonance sur Radio B, Alain Goudard. Bienvenue à toutes et à tous. Cette émission est réalisée et mise en onde par Simon Deborne. Comme toujours, face à l'irruption de l'événement, le pari réside dans la possibilité de rester fidèle à ce qui fait appel dans chaque situation ou au contraire de lui tourner le dos dans un défaut d'agir propre à la mauvaise foi. Nul n'est libre au-delà du point ontologique qui fonde chaque situation. Notre époque nous convoque à un engagement sans promesse, excepté peut-être celle intime et magnifique qui nous rappelle que la vie dépend de l'agir. Loin d'incarner un retrait existentiel ou une morale à minima, la fidélité à cette promesse immanente, véritable imaginaire subversif, incarne la condition de la joie et de la puissance d'agir propre à une éthique situationnelle. Fin de citation, Miguel Benasayag, Les nouvelles figures de l'agir, penser et s'engager, depuis le vivant, paru aux éditions de La Découverte. Un essai engagé et stimulant, explorant les possibilités de renouer un agir puissant dans un monde où les phénomènes comme les effets de nos actes sont marqués du sceau de l'incertitude. Un ouvrage qui nous invite à inaugurer une pensée et un agir qui intègre un savoir qui se tisse au plus proche de nos sensations, de nos émotions et du vécu du corps, le sens commun. Une réflexion précieuse pour nous aider les uns les autres à décrypter, à comprendre le contexte que nous vivons ensemble depuis plus d'une année où la fragilité du vivant a fait irruption sous les traits d'une pandémie. Ce que l'on voit n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on est, écrivait le poète écrivain Fernando Pessoa, extrait de son ouvrage Le livre de l'intranquillité. Résonance sur Radio B. Et nous venons d'entendre Allegro con spirito, le premier mouvement des bagatelles pour quintette à vent, composé en 1953 par Gyorgy Ligeti et interprété ici par le London Winds Quintette à vent, composé de Philippa Davis à la flûte, Garrett Hulz au bois, Michael Collins à la clarinette, Robin O'Neill, au basson, et Richard Watkins au corps. Et c'est vrai qu'en écho au propos de Miguel Benasaya qui ouvrait cette émission, il m'a semblé intéressant de porter un regard sur l'itinéraire d'un compositeur qui a marqué fortement la deuxième partie du XXe siècle. Il s'agit de celui dont nous venons d'entendre un extrait d'une œuvre. Il s'agit de Gyorgy Ligeti, qui fut toute sa vie un chercheur inlassable. Il revendiquait d'ailleurs le droit à l'expérimentation de formules nouvelles, d'où on lui concédera celui à l'erreur occasionnelle. Après tout, une expérience n'est jamais assurée de réussir, et on apprend tout autant de celles qui ratent ou de celles qui réussissent. Ligeti demeure, pour la postérité, l'un des rares musiciens de la deuxième moitié du XXe siècle ayant réussi à imposer une forme de modernité située à égale distance de l'avant-garde post-sérielle, des tendances néoclassiques ou romantiques et du mouvement minimaliste. C'est sans doute cette indépendance, en partie explicable par sa marginalité de départ, qui rend sa musique unique en son genre. Évoquant ce qui sous-entendait sa démarche musicale, sa recherche esthétique compositionnelle, Gyorgy Ligeti écrivait ceci. « Je veux un certain ordre, mais un ordre un peu désordonné. Je crois que l'art est quelque chose de très humain, qui doit contenir des erreurs et ne pas être froid. Je déteste la géométrie absolue et le chaos absolu. Je suis pour la liberté, mais liberté ne veut pas dire chaos. Cela signifie la possibilité de créer un ordre personnel et de laisser des erreurs, des imperfections. Si vous regardez ce mur, et il montrait le mur de sa chambre, c'est du mauvais artisanat, car il y a beaucoup de défauts, mais je préfère cela à un mur tout à fait rectiligne. J'aime les irrégularités. Mon credo artistique est vraiment « je veux être libre, individualiste, faire ce qui me plaît et je refuse de m'assujettir à une règle quelconque. Mais je ne puis composer sans des règles conformes à l'idée. D'abord la musique, prima la musica, dopo la rigola. » Fin de citation. Dans ces propos de Gyorgy Ligeti me semble résonner également la pensée de Miguel Benassayag. Lorsque celui-ci écrit « Nous existons dans la mesure où nous sommes capables d'assumer les bifurcations qui s'ouvrent devant nous et qui constituent en définitive notre être dont le déploiement n'est pas autre chose que notre propre liberté. » Fin de citation. Prestissimo Consordino, c'est ce que nous venons d'entendre, exactement si nous le traduisons très vite à exécuter avec une grande rapidité, avec une sourdine. C'est le quatrième mouvement de la sonate pour violon alto, composée en 1994 par Gyorgy Ligeti et interprétée ici par Tabea Zimmermann. Alors, quand Ligeti évoque un peu sa jeunesse, son enfance et sa famille. Il nous dit que sa famille, qui était de confession juive, était installée à l'ouest de la Hongrie, au bord du lac Balaton. La langue allemande était obligatoire. Ses grands-parents se nommaient Auer et Schlesinger. Plus tard, à la fin du XIXe siècle, de nombreux juifs adoptèrent des noms hongrois. Les Auer devinrent des Ligeti, Son père, Sandor Ligeti, était directeur d'une filiale de banque roumaine. L'année 1933 marque le début de difficultés d'origine ethnique à cause de la haine des Roumains envers les Hongrois, qui les gouvernèrent durement jusqu'en 1919, et la montée de l'antisémitisme. L'antisémitisme lui interdit d'ailleurs l'entrée à l'université de Kolozsvár et les études de physique projetées. Il doit porter l'étoile jaune. De 1941 à 1943, il étudie la composition, l'orgue et le violoncelle au conservatoire de Koslovar. Ligeti est donc né en 1923 et il nous quittera en 2006. Il évoquait et tenait des propos assez ironiques, voire parfois amers, sur ses racines, ce qui explique en partie qu'il se soit considéré toute sa vie comme un juif errant parmi les courants artistiques de l'époque. Laissons-lui la parole. Je suis né en Transylvanie et suis ressortissant roumain. Cependant, je ne parlais pas roumain dans mon enfance et mes parents n'étaient pas transylvaniens. Ma langue maternelle est le hongrois, mais je ne suis pas un véritable hongrois car je suis juif. Mais, n'étant pas membre d'une communauté juive, je suis un juif assimilé. Je ne suis cependant pas tout à fait assimilé non plus, car je ne suis pas baptisé. Fin de citation. Ce n'est pas le caractère juif qui provoque l'antisémitisme, mais au contraire, c'est l'antisémite qui crée le juif. Fin de citation, Jean-Paul Sartre, Réflexion sur la question juive, ouvrage paru en 1946. Alors, Gyorki Ligeti, de 1945 à 1949, suit des études de composition à l'Académie Franz Liszt de Budapest avec Ferenc Farkas et Sándor Veres. Et à la fin de ses études à l'Académie Franz Liszt de Budapest, Ligeti fait un long périple en Roumanie pour y étudier le folklore et collecter plusieurs centaines de chants populaires hongrois de Transylvanie. La période hongroise du compositeur, qu'il nommait lui-même pré-Ligeti, sans que cela ait jamais impliqué le moindre reniement de sa part, fut naturellement influencé par la personnalité et les recherches du grand compositeur qui a été Béla Bartók. Comme lui, il s'est intéressé aux chants populaires de Transylvanie. Il a d'ailleurs séjourné un temps, en 1949, à l'Institut du folklore de Bucarest, retranscrivant quantité de mélodies enregistrées sur de multiples rouleaux de cire. Ligeti s'est, comme Bartók, composté un terreau de folklore imaginaire qu'il utilisera pour fertiliser ses créations ultérieures. Alors, plongeons dans ce terreau à partir duquel Béla Bartók a cultivé une partie de son imaginaire musical en écoutant un extrait de Scènes de village, ensemble de pièces composées par Béla Bartók en 1926 pour soprano, chœur de femme et orchestre de chambre. Résonance sur Radio B. Nous venons d'entendre la troisième scène de Village, composée par Béla Bartók pour soprano, chœur de femmes et orchestre de chambre, interprétée ici par le chœur Görgöls Choir et le Budapest Chamber Ensemble, placé sous la direction musicale d'Andreas Mihaly. Alors, Györky Ligeti s'inspire, comme on le disait tout à l'heure, de Bartók et des musiques populaires hongroises, roumaines et arabes. Son premier quatuor, d'ailleurs à cordes, Métamorphose Nocturne, qu'il écrit en 1953-1954, est dans cette tradition. Alors, je vous propose d'entendre à présent les quatre premiers mouvements de ce quatuor à cordes, Métamorphose Nocturne. Thank you. Résonance sur Radio B. Nous venons d'entendre donc des extraits donc de ce magnifique quatuor à cordes de Gyorgy Ligeti intitulé Métamorphose nocturne. Et nous avons entendu tout d'abord, successivement, je dirais, Allegro gracioso, puis Vivace capriccioso, ensuite Adagio mesto et enfin Presto, un quatuor donc ici interprété par le célèbre et magnifique quatuor Arditi. Alors, quelques années plus tard, c'est-à-dire en 1956, une année qui d'ailleurs signe notamment l'invasion de la Hongrie par les troupes russes, autant dire que pour Gyorgy Ligeti, il se sentit de plus en plus à l'étroit. Donc il décida, à un moment donné, de passer la frontière en cachette et se débrouilla pour être admis au studio de Cologne, donc en Allemagne, où travaillaient là justement des compositeurs déjà très importants à cette époque, c'est-à-dire Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Luciano Berio et Mauricio Kagel. Tout sujet est donc le fruit d'une époque, produit par et pour elle, et non l'inverse. Il n'y a pas ainsi d'un côté un sujet et de l'autre l'agir. Toute singularité existe en acte. Elle est à la fois ce qui émerge, ordonne et donne sens aux situations dans un effort permanent pour résister à la dispersion du sans-forme, entre guillemets. Fin de citation. Et je trouvais aussi intéressant de mettre en propos, en écho justement, à nouveau ce texte de Miguel Benassayag, extrait justement d'un ouvrage intitulé « Les nouvelles figures de l'agir » paru aux éditions La Découverte. Et c'est vrai que les propos de Ligeti me semblent entrer en résonance avec la pensée et la réflexion de Miguel Benassayag, notamment lorsque Ligeti souhaite signaler un problème particulier. Et là, je le cite. Il faut faire précisément la différence entre l'art et l'art commercial. Ce dernier consiste à reproduire certains clichés aussi rapidement que possible. Ce qui était déjà là avant-hier, on le réchauffe, on le sert sous une forme plaisante. L'art véritable ne se commercialise pas. L'art véritable n'a pas de succès. L'art véritable est intransigeant. Il est le fruit d'idées vraiment originales qu'on ne produit pas en louchant vers le public, mais plutôt en mettant en œuvre l'imagination du compositeur et sa volonté impérieuse de faire quelque chose de totalement nouveau. Peu importe que cette imagination soit spontanée ou constructrice, cela ne joue aucun rôle dans cette perspective. Ce qui importe, c'est ce qu'un compositeur considère pour lui-même comme juste, sans se demander si la chose sera bien reçue ni l'effet qu'elle fera. L'art ne peut naître qu'ainsi. Fin de citation. Alors, Ligeti nous dit ceci à propos de l'écriture d'une de ses œuvres qui s'intitule « Aventure » et qui précise un petit peu sa recherche compositionnelle, l'axe de travail qui vont le guider pendant plusieurs années. Il dit ceci, « Je m'intéresse depuis plusieurs années au problème de la fusion totale entre langue et musique. Au lieu de « mettre en musique » entre guillemets des textes, je voudrais créer un art qui soit à la limite entre musique et poésie. La musique s'articule comme la langue, un texte imaginaire, non sémantique, se compose comme la musique. Deux aspects compositionnels caractérisent l'œuvre intitulée « Aventure ». L'une de nature musicale et phonétique, l'autre de nature affective et dramatique. Le texte, entre guillemets, qui résulte de la particularité de la musique est porteur d'une structure complexe d'affects. Peur, agression, passion, exaltation, ironie, raillerie, nostalgie, deuil, exubérance, plaisanterie sont si bien intriqués qu'il en résulte un labyrinthe de sentiments et de pulsions transformées. Chaque chanteur joue en succession dense différents personnages imaginaires qui entrent en conflit mystérieux et absurde les uns avec les autres. Entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans l'univers d'un théâtre inhérent à la musique.
Oh,
Voilà, nous étions et nous avons pénétré ensemble dans cet univers d'un théâtre particulier, inhérent à la musique comme le souhaitait Gyorgy Ligeti. Et donc c'est cette œuvre, Aventure au pluriel, composée en 1962 par Gyorgy Ligeti, écrite pour soprano, voix de soprano, voix de contralto et de baryton et orchestre. Ça nous permet, et ça me permet justement, de rapporter aussi encore quelques propos de Gyorgy Ligeti pour sa représentation de la musique. Et il nous dit encore ceci. Qu'est-ce que la musique ? Quelle est la fonction de la musique dans notre culture ? Nous n'en savons rien. Nous connaissons la fonction du langage et nous savons beaucoup de choses sur les rapports de la musique et de la danse au rite. Mais nous ne pouvons pas définir la fonction de la musique dans notre culture européenne. Nous prenons part à la musique, à ses traditions. C'est un jeu qui dure depuis des siècles. Chaque compositeur modifie un peu les règles du jeu. Et puis, tout à coup, il y a des ruptures, des changements de paradigme. De petites modifications font basculer vers une qualité tout à fait nouvelle. Et l'on commence à percevoir des liens qui jusque-là étaient dissimulés. Fin de citation. Résonance sur Radio B. Et là, nous venons d'entendre une pièce qui nous a emmené complètement ailleurs par rapport à ce que nous venons d'entendre avec à la pièce Aventure, qui met les voix et orchestres. Là, nous sommes dans une formation beaucoup plus réduite de musique de chambre, voix et piano. Et nous avons pu entendre une œuvre donc avec un titre allemand, Der Sommer, l'été, dans sa traduction, une œuvre composée en 1989 par Györky Ligeti, une œuvre dont un des textes de Friedrich Hölderlin a servi, bien sûr, pour l'écriture. Une œuvre qui a été créée, non pas en France ou en Europe, mais le 10 avril 1995 aux États-Unis, à l'université d'Oregon, et qui était interprétée ici par Christine Wells, soprano, et Irina Kataeva au piano. Basé sur, justement, un texte de Friedrich Hölderlin, ceux qui connaissent bien évidemment un peu la musique de Ligeti sont certainement un peu surpris par cette miniature musicale apparemment simple, et simple d'après ce poème d'Hölderlin. Mais si composé pendant la même période que les Nocens Madrigals, qui ont été composés eux entre 1988-1996, et là on est confronté à un univers rythmique labyrinthique avec de nouvelles manières harmoniques diatoniques, la pièce que nous venons d'entendre remonterait au 19e siècle, jusqu'à Schubert, dans l'utilisation de moyens traditionnels pour transmettre l'atmosphère saisissante et la douceur estivale de ce poème. Donc Der Sommer nous a permis de découvrir encore une autre facette du rapport du mot, du texte, que Ligeti a constamment mis en travail tout au long de sa recherche sur le rapport entre la langue et la musique. Alors c'est en compagnie de cette œuvre, et en compagnie de Ligeti, que se termine ce voyage avec ce compositeur assez incroyable, qui a marqué très fortement le XXe siècle. Et j'espère que, chers auditeurs, vous aurez eu plaisir aussi à vivre ce voyage avec celui-ci en notre compagnie. Alors, comme vous le savez, Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h et puis dimanche de 20h à 21h. Et bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission quand vous le souhaitez, la podcaster, soit sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. Voilà. Restez à l'écoute de Radio B et à très vite.